Une, deux, trois, une, deux, trois. C'est bon le son? Ok. Faisons un petit récapitulation. Donc, ça, je donne un briefing stratégique. Matt, tu fais la classe après. Je vais prendre, mettons, au moins 20 minutes. Ok. Là, vous voyez LaRouche, Lyndon LaRouche, avec Ronald Reagan, ancien président américain. Ça, c'est au New Hampshire en 1984, pendant la course à la présidence de 84. LaRouche était candidat. C'est à ce moment-là que Reagan a gagné la course en tant que républicain. Mais ces deux personnes-là sont en train de discuter d'une proposition très, très importante qui était faite à ce moment-là. Qui s'appelait l'Initiative de défense stratégique et qui visait à. Enfin, qui visait beaucoup de choses, mais qui visait surtout à éviter une guerre nucléaire. Parce qu'à l'époque de la guerre froide, le problème, c'est que il y avait un paquet de malades mentaux qui s'amusaient avec des scénarios de guerre nucléaire pour vraiment freaker tout le monde, puis garder le monde dans deux blocs. Autour là, de l'idée d'un gouvernement mondial où on empêche le développement, on empêche la production de centrales nucléaires sous le prétexte qu'on va faire des bombes avec ça. Et ce que LaRouche a proposé, c'est de dire, ben, OK, ben, débarrassons-nous de ces armes-là, mais la seule façon dont on peut faire ça, c'est en entrant dans un partenariat économique avec l'Union soviétique et les autres nations qui veulent bien participer, pas dans un juste. Là, je parle pas économique en termes genre d'échange, de choses comme ça, mais je parle en termes de développement de nouveaux concepts physiques qu'on peut en par la suite insérer dans l'économie. Puis justement sortir les nations de la crise économique de l'époque. Puis aussi asseoir ce développement-là sur une alliance qui semblait impossible à l'époque. Mais selon ce que nous on a documenté, mais premièrement, on sait que les États-Unis ont adopté le projet, c'est-à-dire qu'on allait les États-Unis se lancer dans un programme de développement scientifique pour réaliser le développement là, de technologies laser plasma qui ont pas seulement l'utilité de débarrasser d'armes nucléaires, mais beaucoup d'utilité pour la production d'énergie. Et LaRouche qui était dans des discussions avec les Russes. Des discussions en arrière du décor, comme on dit, avait trouvé beaucoup de support et d'optimisme. Mais cependant, les Russes ont refusé, sous trois prétextes, en disant que M. LaRouche, votre idée n'atteindra jamais Ronald Reagan. Et aussi, le problème, c'est que les Russes pensaient que en embarquant dans ce projet-là, les Russes ne seraient pas capables de suivre la tendance des Américains. Donc, craignant que les États-Unis se développent plus qu'eux, ils ont dit, ben, on va refuser le projet. Et le problème, c'est ça, c'est que si on avait adopté ce projet-là à l'époque, le monde entier aurait été complètement changé. Et LaRouche récemment a commenté que cette proposition-là, dans les années 80, ça commençait en 77, mais cette proposition-là est l'équivalent de sa proposition aujourd'hui. La proposition des qu'on appelle des quatre puissances. Donc excusez, Chine, Inde, États-Unis et Russie. Encore là, une alliance politique, disons, pour un nouveau système financier, pour arrêter la crise économique, mais aussi une alliance en termes de développement technologique, développement scientifique, programme spatial, programme Lune-Mars, tout ce qui va avec, dans le but justement d'arrêter une crise économique. Puis comme on sait avec l'histoire, les crises économiques comme aujourd'hui ont tendance à créer aussi des conflits militaires, conflits religieux, ethniques, qui deviennent rapidement très, très chaotiques. Et c'est ça qui se passe ces temps-ci, c'est que Depuis, on le sait parce qu'on était là, mais au moins depuis le meeting du G8, les ministres des Affaires étrangères du G8 qui sont rencontrés à la fin mars au Canada, à Ottawa, on sait qu'il y a commence à avoir beaucoup de pression pour avoir un conflit avec l'Iran. Donc, le G8 qui fait une déclaration là-dessus, comme quoi ça prendrait des sanctions sur l'Iran. Et ceux qui vous disent qu'une sanction, c'est pas un bombardement, oui, mais la sanction va vous amener vers un conflit éventuel. Je parle de sanctions économiques, là, en gros. Et récemment, on a eu un meeting avec aux États-Unis, plusieurs nations, Obama était présent, où la même propagande est ressortie. Il faut des sanctions sur l'Iran. La Malaisie a été convaincue de, par exemple, de ne pas envoyer de bateaux en Iran, des bateaux avec des produits, qui viennent des raffineries de pétrole. Parce qu'on sait que l'Iran a du pétrole. Ben, on sait que l'Iran a du pétrole, mais n'a pas la capacité de raffiner, donc doit l'envoyer, par exemple, en Malaisie pour le raffiner. Mais là, le dirigeant, le premier ministre malaisien a dit, ben, on va pas, les bateaux vont pas retourner dans le fond. Fait que ça, c'est, là, tu parles de crise économique en Iran, c'est sûr. Et aussi, ben, vous avez plusieurs journaux, des mouthpieces, comme on appelle en anglais, The Economist, The London Times, des magazines qui disent vraiment, là, que là, c'est le temps. Si l'administration d'Obama est sérieuse, là, c'est le temps d'avoir la ligne très dure sur l'Iran, de faire une alliance avec Israël, qui est déjà en train de crier, bien, surtout Benjamin Netanyahou, qui crie d'un bord et de l'autre, qu'il est le temps de créer une nouvelle coalition of the willing, mais là, contre l'Iran. Et bien, Netanyahou est un peu fou, là, donc il y a certaines de nos sources qui nous ont dit là, que des sources militaires que l'Israël, les États-Unis, il y a une énorme pression là, pour créer un conflit avec l'Iran et que ça pourrait se passer même d'ici avant les élections de novembre, les élections du Congrès aux États-Unis. Ça c'est les sources qui nous disent ça. C'est problématique parce que dans le fond les provocations viennent d'un peu partout, même l'Iran. Mahmoud Ahmadinejad n'est pas. Larouche, il dit He's not uncrazy. Donc, c'est pas très, très gentil, mais c'est ça qui est ça. Puis, vous avez aussi certaines provocations qui viennent de là, des attaques sur Israël, des discours à l'emporte-pièce. On va avoir l'arme nucléaire, puis c'est notre droit, fine. Puis, il y a aussi eu récemment, ça c'est plus inquiétant un peu, là. Mais vous avez la garde révolutionnaire iranienne, qui est dans le fond la section de l'armée hardcore en Iran, qui a fait 3 jours d'exercice militaire dans une des régions de l'Iran. Et ça, c'est. Si toi, tu es un militaire aux États-Unis, tu vois ça, tu dis OK, ces gars-là se préparent. C'est pas des exercices 20 km de jogging, c'est des exercices de déploiement militaire. Et ça, c'est peut être vu comme une provocation, comme un risque ou une excuse pour justement attaquer l'Iran. Mais une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas affaire à. Dans le fond, on se rappelle de ce qui s'est passé en Irak. C'est-à-dire que le problème du conflit en Irak, c'est que. T'sais, moi, je veux bien qu'on regarde c'est des armes de destruction massive dans le monde, mais si c'est ça que tu veux faire, fine. Puis là, ben, t'avoues qu'en Irak, ben, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Mais l'intention, c'était pas ça. L'intention, c'était de créer un conflit, de créer le chaos dans les régions du Proche-Orient et dans toute la région là, du Caucase. C'est ça l'intention. Donc, on entend la même, ce qu'ils disent en français, la même bullshit qu'on entendait avec l'Irak, comme quoi. Les Iraniens vont avoir une bombe nucléaire demain matin, ils peuvent attaquer l'Europe en dedans de 45 minutes. Des choses vraiment pas sérieuses, qui nous rappellent justement les actions de gens comme Tony Blair, qui était. Et là, justement, Tony Blair, l'enquête Chilcot en Angleterre,
Le Chilcot, comme ça, c'est qui? Le Chilcot Inquiry, qui est une enquête.
Qui est une enquête sur, sur la guerre en Irak, qui a révélé que Tony Blair, dans le fond, était l'un des principaux conseillers de George Bush quand il était temps de créer le conflit en Irak. Donc, ça, c'est très important parce que nous, on n'arrêtait pas de dire ça depuis le début. Et là, eux, ben, c'est un peu tard, mais ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc, et aussi, ben, on peut regarder le fait de mettre des sanctions sur l'Iran. Donc, on est loin de la diplomatie, là. Et il y a eu deux déclarations, dont le président Medvedev de Russie, qui lui dit qu'il compte ces sanctions-là, parce que ça punit trop de gens. Au fond, tu focuses pas sur les responsables, tu t'attaques à la population complète. Mm-hmm. Puis le ministre, je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères de Turquie, qui, quand il était à Washington, a dit aussi, ben, il dit, écoutez, les sanctions économiques, on l'a vu avec l'Irak, ce que ça tue des enfants, c'est tout ce que ça tue. Donc, encore là, toute personne qui parle de sanctions n'est pas bien dans sa tête. Ça va rien résoudre. Et il faut plutôt parler d'une proposition qui pourrait amener toutes les parties à travailler ensemble. Et une de ces choses-là, c'est justement résoudre le conflit en Afghanistan. Parce que là, en Afghanistan, il se passe deux choses. On a une certaine victoire de notre côté, parce que là, Hillary Clinton et Ivanov, le ministre des Affaires étrangères...
Lavrov.
C'est Lavrov?
Oui.
Ben, Ivanov, c'est quoi sa position, là, Ivanov?
Drug czar.
Le drug czar de Russie, bon. Ouais. Ivanov. Se sont mis d'accord là, pour éradiquer l'opium de l'Afghanistan. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ça. Et finalement, ça va se faire, ce qui est super bon. Mais en même temps, il y a le général McChrystal qui est en charge de l'OTAN dans l'Afghanistan. Et là, il prépare une espèce de contre-attaque dans Kandahar, la région où les soldats canadiens sont. Mais une région qui est très, très violente. C'est une des pires régions de l'Afghanistan. Fait que je me demande bien qu'est-ce qu'on fait là à faire des écoles puis des autoroutes. Peut-être ailleurs, dans une région où ça peut se construire et puis ça peut avancer. Là. Mais non, l'idée, c'est qu'il y a une tentative, si on veut, d'attaque contre les drug lords puis les talibans dans cette région-là. Le problème, c'est que c'est fait sans discuter avec les leaders, les vrais leaders tribaux, qu'ils appellent les elders, les hommes sages, j'imagine. Et c'est important de travailler avec eux parce qu'il faut regagner la confiance de la population afin de pousser la question du talibanisme, ou placer comme vous voulez, de mettre ça à la poubelle, d'être capable d'éradiquer l'opium, produire de la nourriture, créer des emplois, puis de redévelopper l'Afghanistan de façon sérieuse. Et justement, quand je parlais de coopération, c'est que l'Iran, comme avec la Russie, c'est pour ça que la Russie faisait beaucoup de pression sur l'OTAN pour qu'ils changent leur politique, de vraiment attaquer l'opium, parce que la consommation d'opium et d'héroïne tue 30 000 personnes par année en Russie. Il y a une population de 18 à 40 ans, on a 2,5 millions d'accros à la drogue. La drogue là, reliée à ce qui vient de l'Afghanistan. Et aussi en Iran. C'est-à-dire que l'Iran souffre énormément de la production de drogue de l'Afghanistan. Je pense qu'on parlait de 20% de la population qui était dans accro à une drogue reliée à la production d'opium, que ce soit l'opium ou l'héroïne. Puis récemment, ben justement, donner un peu une idée, mais l'année dernière, l'Iran a saisi 557 tonnes de drogue qui va de hashish, opium, morphine, des pilules d'ecstasy. Mais évidemment, 80% de ça, c'est de l'opium. Tout ça vient de l'Afghanistan. Fait que, dans le fond, la consommation de drogue tue encore plus de monde que le conflit militaire lui-même. Puis ça, ça peut aussi... Il y a un rapport qui avait été fait là-dessus en comment les enfants de l'Afghanistan même étaient touchés par cette drogue-là, soit par consommation directe, mais surtout surtout une consommation qui vient des gens de la maison, par exemple, père ou ta mère ou ton frère ou qui est dans cette drogue-là. Il disait que 31 foyers... dans 31 foyers sur 42, les enfants de la maison avaient un contact direct avec la drogue à cause de la famille. Et les gens qui ont fait ce rapport-là, c'est un documentaire qui est passé à la télévision, j'ai oublié les détails, mais ce que ça disait dans le fond, c'est que l'Afghanistan va perdre une génération si ça continue comme ça. Si vous avez 10 ans, vous êtes accro à l'héroïne, ben... À moins de rendre un gros traitement choc, là, pour vos prochaines années, ne vont pas être très productives. On parle de vraiment, c'est l'âme de la population qui meurt. Mais c'est ça, donc, c'est-à-dire que il y a un conflit militaire en Afghanistan qui est en train de vraiment siphonner les États-Unis, siphonner toute nation qui s'implique là-dedans. Mais en même temps, on a une opportunité là, de se débarrasser de cette drogue-là. Puis, mais aussi, c'est ça, c'est-à-dire que l'environnement en général, c'est que il faut empêcher une bande de désaxés de faire un autre conflit, mais cette fois-ci avec l'Iran. Parce que l'Iran, c'est pas l'Irak. L'Iran, ils ont une armée, ils ont des tanks, ils ont des avions. Puis tu veux pas de conflit, là. Puis tu veux pas non plus... Enfin, ça, c'est peut-être plus une autre chose, là, mais c'est ça, il y a cette tendance vers le conflit. Et c'est pour ça qu'on parle du Four Powers Initiative. C'est-à-dire que là, on a une crise économique qui est vraiment en train là, de siphonner tout le globe. On a des gens dans ce système-là qui continuent leur même politique. Mais pour arrêter ça, ça va prendre... Le genre de nation qu'on a là, c'est-à-dire de mettre Wall Street à sa place, mettre l'Empire britannique dans le trou, puis de réformer tout le système financier, d'être capable d'avoir une base solide là, pour arrêter les conflits, puis avoir une politique sur le long terme, 50, 60 ans, en termes de développement technologique. Puis, juste pour ajouter à ça sur l'aspect économique, parce que quand nous, on parle de ça dans la rue ou avec les gens, de ces quatre nations-là, le problème que les gens disent, ouais, mais. Disent, ok, Russie, Chine, Inde, ça va, mais les États-Unis, ils vont. Tu peux pas travailler avec les États-Unis, sont juste fous. Et là, il y a une autre proposition qui est faite. C'est-à-dire que c'est pas les quatre puissances, ou pas tout à fait, mais c'est ce qu'ils appellent le BRIC. Donc, BRIC, c'est Brésil. Russie, Inde, Chine. Et ça, c'est drôle parce que c'est venu en force. Cette idée du BRIC, de ces quatre nations-là, est venue en force pas mal en même temps où nous, on a développé le concept des quatre puissances. C'est-à-dire, l'idée était là il y a quelques années, mais en 2007, il y a eu un livre qui était sorti là-dessus par le groupe d'investissement Goldman Sachs. C'est-à-dire qu'il y a une tentative des réseaux financiers de bloquer une véritable alliance pour une vraie réforme, puis plutôt de rester, dans le fond, de convaincre trois énormes nations, Russie, Chine, Inde, de rester dans les limites du système financier, puis dans le fond, de jouer la game de mettre les nations en faillite, puis de sauver le système financier, ou d'essayer, plutôt d'essayer de sauver le système privé. Et c'est là où la question du Brésil, j'ai rien contre M. Lula, mais le Brésil est pas une nation vraiment souveraine. Puis on a documenté là, à l'époque, pas à l'époque, mais il y a quelques mois, le rôle de l'Angleterre derrière le Brésil. surtout à travers le réseau financier Banco Santander, la banque Banco Santander, puis le groupe des Rothschild, le groupe Ether Alpha. Parce que dans le fond, c'est ça l'idée. Si vous allez sur le site, ça c'est le site Goldman Sachs. Si jamais vous avez. Puis vous allez dans la section ID. Est-ce ça, ID? Ouais. Vous voyez ici, ça me dit BRICS. Vous avez différentes vidéos. Il y a aussi le fameux livre, le book BRICS and Beyond. Je ne suggère pas de le lire, mais c'est vraiment. Comment documenter, c'est-à-dire le Brésil qui est impliqué dans un carry trade. C'est-à-dire que le Brésil est une nation maintenant qui est la base pour continuer le pillage des États-nations. Et là, l'idée, bien, c'est justement c'est de marquer Russie, Chine, Inde là-dedans aussi. Puis d'éviter la vraie réforme dont Laroche parle, parce que c'est ça la vraie question. Ça nous prend un nouveau système financier au complet. Pas juste 3-4 cossins de taxer les banques ou de taxer les riches. On n'est pas à ce niveau-là. On a un niveau beaucoup plus grave. Et comme ce que Laroche proposait dans les années 80 avec son IDS, l'Initiative de défense stratégique, on est dans une situation où il faut vraiment éviter un conflit énorme, un conflit nucléaire. Puis... plutôt mettre les bases, comme on va voir avec Matt tantôt, c'est-à-dire, dans le fond, on a deux types d'urgences dans le monde. Il y a les urgences qu'on va dire à court terme, comme la guerre en Iran ou la crise économique. Mais il y a aussi d'autres urgences, dans le fond, qui semblent à long terme, mais qui sont, quand tu y penses, faut que tu t'y mettes tout de suite. Mais c'est justement quand on pense au fait que dans 5 milliards d'années, ben notre soleil va nous quitter et que ça risque de causer quelques problèmes. Je ne parle pas. Donc ça, on est au courant de ça. Donc, ben, comment comment est-ce qu'on forme une alliance politique entre des gens ou des nations pour aller dans cette direction-là, c'est-à-dire de résoudre les conflits qu'on voit, les conflits politiques. Mais plus que ça, de vraiment mettre en place une politique du long terme, 50, 100, 200 ans, en termes du développement nécessaire scientifique, technologique, de mettre l'emphase sur tous les nouveaux principes dont on va avoir besoin dans l'avenir, toutes les nouvelles découvertes qui vont devoir être générées. Et pour faire ça, il faut que tu te débarrasses de l'Empire britannique. Fait que tout de suite, on met le Brésil à côté, puis ça nous prend les États-Unis, ça nous prend une vraie république, ça nous prend la Constitution américaine, puis ça nous prend une tradition comme celle de Laroche, toute la tradition de Roosevelt, pour justement le renverser la donne. Fait que...
Je vais rester là-dessus. Si j'ai des questions, peut-être une ou deux questions s'il y en a. Sinon, je passe la main.
Pourquoi est-ce que tu te débarrasses de l'Empire britannique?
Beaucoup de gens diraient qu'il faut se débarrasser des États-Unis. Mais quand on parle d'Empire britannique, c'est vraiment... si on regarde, mettons, quelques 200 ans en arrière... Là, c'était comme peut-être plus évident qu'il y avait l'Empire britannique partout, sur toutes les côtes. L'esclavage, vente d'opium, puis vraiment le contrôle des colonies. C'est un empire. Aujourd'hui, l'empire a peut-être changé de façon visuelle. On la voit peut-être moins... on la voit pas vraiment en temps militaire. Mais toute la faction à Wall Street ou à la City de Londres, dans le fond, c'est le même type de réseau. C'est des réseaux qui n'ont rien à voir avec les nations en soi. Dès que Londres... Est-ce que Londres est vraiment britannique? Les gens qui travaillent là, est-ce qu'ils sont d'allégeance britannique puis c'est des patriotes? Je ne penserais pas. Mais c'est des gens qui travaillent encore à détruire l'idée de nation. Ils n'ont pas dirigé le fait que les colonies sont devenues ou ont essayé de devenir des nations. Ils n'ont pas dirigé, ils n'ont pas digéré la défaite contre les États-Unis. Les États-Unis sont devenus la République. Fait que, et surtout, on a eu Franklin Roosevelt dans les années 30-40, qui lui avait vraiment l'intention de se débarrasser de tout ça, toute l'idée de colonialisme. Mais quand il est décédé, l'Empire elle-même a repris de la force, a pris un contrôle très sérieux des États-Unis, à travers tout ce qui est politique étrangère, politique économique, où le fameux miracle économique américain, on l'a comme mis à la poubelle après un certain temps. Puis là, tout est devenu monétaire, financier, libre-échange, tout ce qui est développement technologique, industriel, on a mis ça à la poubelle. Puis on s'en est tenu à une politique d'usure. Politique, dans le fond, c'est pas de l'esclavage, c'est du cheap labor, c'est sans même maudite affaire. Là. Fait que là, on est dans ce moule-là. Puis si tu veux arrêter la crise économique, il faut que tu puisses identifier ces gens-là. Un peu comme avec Goldman Sachs, désolé, j'en ai pas parlé, mais. Goldman Sachs, qui est maintenant, il y a des gens qui veulent poursuivre Goldman Sachs pour fraude économique. C'est une petite fraude, là, mais ça pourrait amener à quelque chose de plus gros. Puis nous, on dit que, parce que nous, on dit que tout le système est fucké. Hein. Fait qu'il faut que tu réformes tout le système financier. Puis le problème, c'est ça, il vient pas, c'est pas juste des États-Unis en soi, c'est cette conception de l'Empire britannique puis la force financière derrière. Pas par là peut-être tantôt, mais ça a répondu un peu. Okay.
Okay. Je vais prendre juste 3 minutes pour set up my class. There's some cookies in the back and some water that you guys can entertain yourselves with.
I'm not recording. Oh.